Alors, j'ai essayé de vous faire, sans grande préparation, je l'avouerai, mais j'ai essayé de vous faire un petit programme qui ne soit pas uniquement une lecture, pour vous remettre un peu l'histoire du roman Tancrède en perspective, et puis les sources que j'ai utilisées, et bien sûr des extraits du texte. Comme je disais tout à l'heure, je regrette que Claude Equel ne soit pas là. Claude Equel, qui est un auteur de premier plan de la science-fiction française et qui est aussi l'un des meilleurs lecteurs que je connaisse. C'est pas toujours facile de lire ses propres œuvres, alors lui, il l'aurait très très bien fait. Alors, l'histoire de Tancrède, pour moi, d'abord, c'est une histoire très personnelle. Tancrède, c'est à peu près presque 10 ans de réflexion, d'hésitation, de retour en arrière, d'avancée. C'est sans doute ce que je peux dire aujourd'hui, et je remercie André-François Riau, mon éditeur qui est ici présent. C'est sans doute mon texte le plus personnel et le plus authentique. Et c'est la raison sans doute pour laquelle il a pris autant de temps pour aboutir. Dans mon parcours, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis également historien de droit et des idées politiques. Je conseille à la faculté de droit de Nice, au Sciences Po Nice. Et donc, je suis auteur de science-fiction publié depuis 1998 à peu près. Ce qui fait donc maintenant une bonne dizaine d'années, à peu près la durée du travail sur Tancrède. Alors, Tancrède est une uchronie pour le situer dans la palette du genre. Tancrède est une uchronie sur la première croisade, mais évidemment, pour construire le roman, je ne suis pas contenté d'en faire une uchronie. C'est un texte très personnel et c'est un texte qui va relier plusieurs éléments. En tant qu'auteur, moi je considère, en quelques mots hein, vraiment, qu'il ne peut pas exister un texte, une fiction, qui repose sur un seul élément. Si je m'étais contenté de considérer Tancrède comme une uchronie, un roman sur la première croisade, oui, j'aurais probablement fait un texte probablement dénué d'intérêt, et je me dirais que celui-là ne l'est pas dénué d'intérêt. Il y a l'aspect historique, que dans ma formation auquel j'ai accordé une place importante en fonction de ma formation d'histoire du droit. Il y a l'aspect science-fiction, et c'est ici l'aspect uchronique du texte, bien sûr. Et puis il y a l'aspect personnel, et c'est par celui-là que je vais commencer. Je vous fais d'abord écouter un petit extrait. Alors, l'extrait que vous écoutez, c'est un extrait d'un opéra baroque d'un compositeur provençal qui s'appelle André Contrat, compositeur de la fin du XVIIe siècle, et son opéra Tancrède date de 1702. Alors, ça a été ma source principale d'inspiration sur Tancrède. Merci Clément. Ça a été ma source principale d'inspiration pour la raison très simple. Que cet opéra baroque, Tancrède de André Contrat, a été redécouvert par mon grand-père, qui était chef d'orchestre, et que vous voyez là en train de diriger son ensemble instrumental de Provence, qu'il a dirigé pendant 35 ans à Marseille. Et ce grand-père musicien, qui avait rêvé de faire de moi un musicien et qui a profondément échoué, le pauvre, eh bien, avait notamment travaillé sur la redécouverte de la musique baroque. Et il a notamment travaillé à partir d'archives très incomplètes, très parcellaires, sur la redécouverte de l'opéra d'André Contrat qui s'appelle Tancrède. Alors évidemment, Contrat n'est pas le seul à avoir fait un Tancrède. Le personnage de Tancrède a inspiré énormément de compositeurs, énormément d'auteurs d'opéra, notamment Le Tasse, mais aussi Monteverdi. Et on trouve aussi des Tancrèdes de Voltaire et des Tancrèdes d'autres grands auteurs. Mais celui-là est particulier parce qu'il avait été perdu, et justement, c'est mon grand-père qui l'a retrouvé et qui l'a fait jouer avec son ensemble instrumental. Et ça lui a pris énormément de temps. Moi, je le dis, mon grand-père m'a pris 8 ans. Lui, ça lui a pris beaucoup plus pour arriver à un résultat qui soit imprimable, enfin pressable à l'époque, parce qu'on était encore à l'époque du vinyle, hein, et qui a été donc pressé sous le label des disques Pierre Verani, puis ensuite repris par Deutsche Grammophon. Alors ce Tancrède, je l'ai entendu toute ma jeunesse. Je l'ai entendu de bien des façons différentes, dans le cadre familial. Dans le cadre familial, je suis allé l'écouter lorsque mon grand-père le jouait avec son ensemble instrumental, et ça m'a imprégné. Alors voilà un premier aspect de Tancrède. Le deuxième aspect, qui est important pour moi, je vais crescendo évidemment, hein, cet aspect familial. Un deuxième aspect important, c'est le contexte historique. Le livre dont je vais vous lire un extrait d'ailleurs tout à l'heure est un livre qui met en scène la première croisade. Alors pour vous resituer un peu l'histoire de cette époque, on est à la fin du haut Moyen-Âge, on est au 10e, 11e siècle, hein, et on est à une époque où l'Occident médiéval, tout à l'heure André-François Leau vous parlait de féodalité très justement, on est à la fin du 11e siècle. Et on est à cette époque où le modèle féodal est devenu un modèle de société, est devenu un modèle de répartition du pouvoir politique et un modèle juridiquement structuré. Il vous parlait, André vous parlait dans la précédente conférence, des rapports avec les seigneurs, les vassaux et les chevaliers. Ce qu'il vous a dit sur l'idéal chevaleresque et la figure du chevalier, et bien moi je l'étudie par ailleurs avec des étudiants du point de vue juridique. Où je montre comment s'organisent les rapports de force entre les seigneurs et les vassaux, et comment se constitue entre le 10e et le 11e siècle une pyramide féodale qui va permettre d'orchestrer le pouvoir politique en l'absence de l'État. Et au 11e siècle, ce qu'il se passe, c'est que cette féodalité qui s'instaure à peu près depuis le 8e siècle, après Charlemagne, on peut dire que l'État commence à dégénérer, l'État commence à décliner à partir de Charlemagne. Après Charlemagne, hein, après donc les fils de Charlemagne et les petits-fils de Charlemagne, et bien sûr les Capétiens, hein, qu'on évoquait tout à l'heure. André, tu évoquais 1180, c'est Philippe Auguste, c'est le début de la reconstruction de l'État. Et c'est justement à ce moment-là où on va glorifier l'idéal chevaleresque par réaction. C'est la question que j'aurais voulu débattre avec toi. Et au 11e siècle, ce modèle féodal est devenu un modèle juridique établi, et on va chercher, pour tout un tas de raisons, à l'exporter. À l'exporter parce que désormais, ce qu'on recherche, ce n'est plus la sécurité en Europe, mais c'est la puissance. Et la première puissance que l'on recherche en Europe, à cette époque où le commerce et les routes commerciales avaient été coupées par les invasions normandes, eh bien ce qu'on recherche, c'est la possession de terres. Car qui dit puissance foncière, dit puissance politique. Et au XIe siècle, lorsque résonne l'appel de Clermont, lancé par le pape Urbain II, en voilà ici une représentation. En 1095, le pape Urbain II lance l'appel à la croisade pour aller libérer le tombeau du Christ. Et la plupart des chevaliers de l'Occident médiéval et de l'Occident féodal vont se jeter vers le Proche-Orient, vers Jérusalem, pour libérer le tombeau du Christ. Et ils vont le faire pour deux raisons. Une avouable et l'autre inavouable. Ou en tout cas, inavouable de façon expresse. La raison avouable, c'est que la féodalité a été aussi une période de désordre culturel et de profonde mutation dans les valeurs. Et il y a eu beaucoup de débordements, beaucoup d'exactions commises, notamment du monde chevaleresque, qui représente 1% de la population, grand maximum 1 ou 2% de la population, sur le petit peuple. Et les chevaliers qui partent à la croisade veulent en fait racheter leur conscience. Le pape Urbain II les envoie en Orient, libérer le tombeau du Christ, pour leur racheter une conscience. Et la plupart ont besoin de ce rachat spirituel. Ça, c'est la partie avouable. La partie inavouable, c'est qu'en réalité, et il ne faut pas être naïf, hein, c'est ce que j'explique à mes étudiants chaque année, le but des chevaliers et des seigneurs qui partent en Terre Sainte, c'est évidemment de se constituer des fiefs orientaux, de manière à augmenter leur puissance foncière et par conséquent, leur puissance politique. On est dans une époque où, précisément, l'État n'existe plus et la possession de la terre est acquise. Alors, ce que vous voyez sur la carte, et j'arrêterai là pour tester si c'est vraiment historique, ce que vous voyez sur la carte, c'est les différentes expéditions parties à la fin du XIe siècle, depuis l'Europe féodale, vers la Terre Sainte et vers Jérusalem, hein, que vous voyez très bien en bas à droite de votre plan. Alors, quel était le lien avec Tancrède? Eh bien, c'est tout à fait évident pour moi. Tancrède est un personnage historique qui appartient à la famille des princes normands de Hauteville. Eh bien, Tancrède a participé à la première croisade aux côtés de son oncle Bohémond de Tarente. Et les Normands tenaient la Sicile au XIe siècle. Vous voyez le petit tracé bleu et ensuite orange et rouge. Et l'oncle de Tancrède, tout ça, ce sont des personnages strictement historiques, car je l'ai créé dans le roman de très très peu de personnages fictifs. Eh bien, l'oncle de Tancrède et Tancrède lui-même quitte la Sicile alors qu'ils sont en train d'étendre leur possession territoriale et pour des raisons évidemment de volonté de contrôle de terres nouvelles et se rendent à travers toute l'Anatolie. L'Anatolie, c'est l'actuelle Turquie en quelque sorte, à travers l'Empire byzantin, bien entendu, avec toutes les relations géopolitiques complexes avec l'empereur, hein, Alexis Comnène, et vont aller jusqu'à Jérusalem. Ça, c'est l'histoire. Et voilà la deuxième base de mon roman. Après l'opéra, deuxième base, l'histoire. Troisième base, car sinon je ne serais pas là et André n'aurait jamais pu quitter Tancrède, évidemment, c'est que c'est aussi, et il me fallait une troisième base, de pur imaginaire et de pure science-fiction. Et au sein de la science-fiction, ce qui m'intéresse le plus dans ma démarche, c'est évidemment la partie de la science-fiction qui se concentre sur les sciences humaines, puisque ma formation est une formation, disons, du droit et des et que je connais essentiellement les sciences humaines et très très peu les sciences exactes. Même si je ne prétends pas connaître les sciences humaines de façon beaucoup plus claire. Et par conséquent, ce qui m'intéresse le plus dans la science-fiction, c'est cette branche de la science-fiction qui existe depuis quand même un certain temps maintenant, qu'on appelle l'Uchronie. Alors l'Uchronie, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, est très en vogue depuis quelques années. Il y a eu des essais publiés sur l'Uchronie, notamment l'essai de Éric Henrier qui sera revisité. Il y aura d'autres essais sur les uchronies, c'est inévitable. Mais en réalité, c'est une branche de l'imaginaire qui est relativement ancienne. L'uchronie remonte au plus, si on est strict au niveau terminologique, hein, l'uchronie remonte à Charles Renouvier. Charles Renouvier est un auteur républicain, qui a notamment publié le manuel de l'homme et du citoyen républicain, qui, dans la deuxième partie du XIXe siècle, en 1876 exactement, va publier un ouvrage qu'il appelle l'Uchronie sous-titré ou l'Utopie dans l'histoire. Et que fait-il dans cet ouvrage, appelé l'Uchronie, Charles Renouvier? Eh bien, il fait quelque chose qui se rapproche de la fiction, mais qui n'est pas un roman. Parce qu'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de narration au sens strictement fictionnel du terme. Il raconte un monde dans lequel l'Empire romain non seulement ne s'est pas effondré, mais est retourné vers les valeurs de la République après Marc Aurèle, à la succession de Marc Aurèle, après la mort de Marc Aurèle. Et c'est un général qui avait toute la confiance de Marc Aurèle, Avidius Cassius, qui prend les rênes de l'Empire à sa suite, et qui restaure les valeurs républicaines et poursuit et prolonge l'Empire romain jusqu'à beaucoup plus tard que dans notre ligne temporelle, on a pu le faire, c'est-à-dire beaucoup plus tard qu'après le 5e siècle. Et l'autre clé de cette uchronie de Charles Renouvier, c'est que le christianisme est rejeté par l'Empire, et l'Empire romain, au lieu de devenir chrétien, reste un empire polythéiste, reste un empire fondé sur les divinités romaines de l'origine. Et le christianisme, où se réfugie-t-il? En Orient, où il devient la secte religieuse majeure. Alors évidemment, l'islam n'apparaît pas de la même manière, bien entendu. Et on a, dans l'Uchronie de Charles Renouvier, un Orient marqué par le fondamentalisme religieux chrétien, et un Occident marqué par un empire républicain romain centré sur les valeurs de l'origine de la République et qui se maintient durant des siècles et des siècles. Et qui plus est, d'ailleurs, il y a un petit élément que je réalise en parlant à quel point je me suis inspiré de Renouvier maintenant. Je ne vais pas plagier Renouvier, mais je me suis bien inspiré. Il postule aussi une accélération technologique. C'est-à-dire que dans la ligne temporelle de Renouvier, de l'Uchronie, la technologie va plus vite que dans notre histoire. Partant du principe que le christianisme a été évacué en Orient, l'accélération technologique se fait plus rapidement, et donc on voit dans le monde de Renouvier des inventions qui, pour nous, sont plutôt du 19e ou 20e siècle, arriver bien plus tôt. Alors évidemment, pour moi, m'inscrire dans la tradition de l'Uchronie, c'était une évidence. Et donc, évidemment, le Tancrède que j'ai livré ne raconte pas la même histoire que le Tancrède d'André Comprat, ne raconte pas la même histoire que le Tancred de Voltaire, par exemple, même s'il en reprend certains éléments. Il vous raconte un monde dans lequel on passe d'un monde historique que vous connaissez, qui est celui de la première croisade, jusqu'à la bataille de Jérusalem en 1099. Et après la bataille de Jérusalem, on rentre dans l'Uchronie, dans l'imaginaire, et je décris un monde qui n'a absolument plus rien à voir avec celui dont, avec l'histoire qui vous est familière, avec ce personnage central de Tancred, qui va devenir cet acteur historique, qui d'abord, en son âme et conscience, et puis par ses actes, va changer l'histoire et va décrire une Uchronie divergente de l'histoire que l'on connaît. Sans ces trois éléments-là réunis, l'aspect personnel, musical et familial de mon grand-père qui avait redécouvert Tancred, ma formation d'historien qui m'a amené à faire des recherches extrêmement poussées sur les croisades et sur l'islam et sur la chrétienté de l'époque, et mon parcours d'auteur de science-fiction, ce roman n'aurait jamais vu le jour. Et j'en suis intimement convaincu. Le moindre de mes textes qui a le moindre de début, de commencement d'une valeur procède en général d'une association ou d'une symbiose en meilleur des cas entre des éléments très divers. Et Tancred en est l'illustration parfaite. Je remercie André. Sans André, il n'existerait pas. Et c'en est la parfaite illustration de ce que je peux faire en termes de culture et en termes de science-fiction. Ça fait plusieurs fois que j'emploie le terme de science-fiction et pas de fantasy. Pour moi, Tancred n'est pas de la fantasy. Même s'il y a des éléments de fantasy dedans, Tancred est plutôt un récit de science-fiction basé sur l'histoire. Mais comme l'a bien montré André, ces frontières entre l'histoire et la science-fiction, entre la fantasy et la science-fiction, sont très poreuses, et je ne cherche pas du tout à faire ici de querelles d'étiquette. Alors je vais vous lire deux extraits, sauf si vous voulez peut-être poser une question avant, je ne sais pas, si jamais quelqu'un a une question. Sinon, je vous propose deux extraits du livre et deux extraits musicaux, et je répondrai à vos questions après. Pas de question ? Alors c'est dur de choisir ses propres extraits, mais enfin bon. Je vais vous lire un extrait qui se passe dans la première partie de l'ouvrage et qui se passe dans le désert anatolien, dans cette partie où Tancred commence à découvrir les réalités de la croisade. La traversée du désert anatolien a été particulièrement difficile pour mes compagnons. Pas seulement à cause de la chaleur implacable qui porte au rouge le métal de nos gantelets et de nos cottes de mailles. Les soldats de Kilij Arslan et ses alliés, dans leur retraite vers l'intérieur des terres, se sont éparpillés, insaisissables. Nous sommes épuisés à en rattraper parfois une escouade, guère plus d'une cinquantaine à chaque fois, dont le massacre ne justifie guère les efforts engagés dans la poursuite. Mais surtout, les infidèles, dans leur fuite faussement éperdue, détruisent toutes les réserves d'eau potable et de vivres qu'ils peuvent trouver. Ils incendient leur propre village afin de nous couper de toute source de ravitaillement. Leur but, nous l'avons compris trop tard, est de nous faire périr de soif et d'inanition. Et ils ont bien failli réussir. Nombre de vaillants chevaliers n'ont pas survécu à la traversée du désert et sont morts d'épuisement après avoir bu le sang de leur monture. Moi-même, j'ai bien cru y rester et j'ai failli me retrouver piéton. J'ai été contraint, comme beaucoup d'autres, de me nourrir d'écorce de résineux et de boire, à plusieurs reprises, ma propre urine refroidie. Richard de la Principauté a perdu son destrier et son ronc-sein, le premier dans une étroite passe rocheuse et le second dans une rixe avec des vassaux restés sans seigneur et maraudant dans l'arrière-garde de la croisade. Il m'a fallu intervenir avec l'aide de Bohémond, avec lequel je conserve des rapports tendus en dépit de nos liens familiaux, pour empêcher qu'il ne lui dérobe également son équipement. Les indélicats ont été étranglés sur place. Richard a dû se contenter, pendant le reste de la traversée du désert, d'un bœuf décharné en guise de monture. Quant à moi, je dois ma survie et l'absence de spoliation provoquée par les délires de la faim à mon fidèle serviteur Diogène, qui ne m'a jamais quitté, prenant soin de ma monture et de mon équipement tout en retranscrivant, presque chaque soir, mes pensées sur les événements de la journée à la lueur d'une bougie. Dans le désert, j'ai mangé à peu près tout ce qui avait un cœur. Chien, cheval, mouton, chèvre. Il n'y a guère qu'un seul animal auquel je n'ai pas goûté.
Même ces créatures à bosse, dont le nom nous était si mystérieux que l'apparence, qui servaient de monture à certaines tribus d'infidèles, nous les avons immolées sur l'autel de notre mission. Quant au sang, nous en avons bu plus souvent que tout autre liquide. Quand nous avons franchi l'Antitaurus et pénétré les riches terres de Cilicie, ça a été la ruée vers l'eau. Mais le désert nous avait tellement distendus que nous sommes arrivés de façon désordonnée. Ainsi ai-je perdu de vue pendant plusieurs jours l'étendard de Godefroy de Bouillon et les Normands de Bohémond. Je crois que le maigre host que composent mes vassaux et ceux de Richard, ainsi que tous nos dépendants, a pris, sans que nous l'ayons souhaité, la tête de la croisade. En tournant notre regard vers l'ouest, on voit à peine la poussière soulevée par les autres équipages. Il me semble que les plus proches sont menés par le frère de Godefroy, le comte de Boulogne, que j'ai rencontré lors d'une réunion au départ de Dorillé. Baudouin ne m'avait pas fait alors la même impression que son aîné. L'extrait que je vous ai lu, donc, c'est un extrait qui pourrait être du roman historique, hein, dans la mesure où mes références sont justes et je les revendique comme telles. Un extrait où on voit, évidemment, au-delà de l'appel vers la Terre Sainte, la difficulté concrète de la croisade. Et on voit les premières désillusions, et on voit à quel point l'idéal chevaleresque se confronte aux difficultés matérielles du terrain. Je n'ai strictement rien inventé. C'est pas mon honneur, mais je vous le dis. Ni dans les personnages, ni dans le caractère des personnages, ni dans la succession de l'ordre des événements. Tout ce que je vous ai lu, c'est le fruit de mes lectures, et notamment de deux ou trois lectures essentielles. Les croisades vues par les Arabes de la Mille Malouf, la chronique anonyme de la première croisade, qui est l'un des rares textes que l'on ait retrouvé qui soit contemporain de la première croisade, et que vous pouvez trouver en librairie très facilement. La chronique anonyme de la première croisade, c'est chez Arléa, et à Mille Malouf, c'est Gélu, je crois, livre gauche. Et bien sûr, les croisades du. L'histoire des croisades de Zoé Oldenburg, qui est une essayiste et un historien important sur l'histoire des croisades, et beaucoup d'autres recherches. Tout ce que je vous ai vu à ce stade-là, c'est la croisade d'étude. Je vous fais écouter un extrait en français, hein, puisque Campra est un compositeur français, provençal, d'un des débuts de l'acte 2 de Tancrède. Voilà, ça c'est un extrait donc toujours de l'opéra de Campra, où si vous avez réussi à écouter un petit peu les paroles en français, puisque c'est un des opéras qu'on trouve en français, on a une forte idéalisation de la croisade, hein, l'appel au ciel, à la conscience. Et effectivement, ce que recherchaient les croisés, et ce que croyait rechercher Tancrède, le vrai Tancrède, je pense aussi, c'est le royaume de la conscience, selon saint Augustin, c'est-à-dire la cité céleste. La cité céleste dans laquelle les péchés de l'Occident et des princes de l'Occident seront absous, seront effacés. Alors on a, pour moi, ce qui est intéressant, c'était la confrontation, ce qui était le plus intéressant, c'est la confrontation entre l'aspiration spirituelle et les réalités matérielles. L'aspiration spirituelle des princes croisés, avec plus ou moins de sincérité, et puis de l'autre côté, bien au contraire, les réalités matérielles, le côté, ce que j'essayais de montrer dans mon extrait, distendu de la croisade, et puis ces fidélités, ces liens de vassalité, ces liens de fidélité, ces fameux serments de fidélité qui en fait ne tiennent pas face aux événements. Vous avez vu le comte de Saint-Gilles qui va être dépouillé de son ronsin, de son esprit, etc. En plus, petite remarque linguistique, mais je laisserai la linguistique au seigneur de la linguistique, c'est-à-dire M. Jaworski, qui parlera après moi et qui le fera bien mieux. J'ai essayé dans ton trait de distiller un petit peu du vocabulaire de l'époque, du vocabulaire technique. Ronsin, destrier, serment de fidélité, vassalité, etc. Mais j'ai essayé de le faire toujours de façon... extrêmement limitée, extrêmement légère, de manière à ce que le récit ne soit pas un roman historique au sens strict, mais bien un roman de sens fiction. Alors, deuxième extrait que je vous lis, c'est le moment du basculement, c'est-à-dire le moment où mon personnage de Tancrède sort de cette ligne historique de départ pour entrer dans le royaume ou dans le domaine de l'Uchronie, c'est-à-dire ce moment dans le roman où, en conscience et puis en acte, il bascule dans une autre façon de voir, les choses et une autre façon de voir la croisade. Jérusalem, juillet 1099. Dans quelques heures, demain tout au plus, la lutte pour Jérusalem aura commencé. Et si je vais lutter de toutes mes forces pour la sauvegarde de la ville sainte, je ne le ferai pas dans le camp des croisés. Mon bras armé ne se lèvera pas à côté de celui de Raymond de Saint-Gilles. Mon bouclier ne protégera pas Godefroy de Bouillon. L'un frappera le comte de Toulouse et l'autre parera les coups du duc de Basse-Lorraine. Quant à Robert de Flandre, s'il me reconnaît, il tentera de m'ôter la vie, sans hésiter. Mais mieux vaut pour lui qu'il ne se trouve pas en travers de ma route. Que Syracuse me semble loin, la bataille avortée d'Amalfi me paraît appartenir à un autre temps. Si l'on m'avait dit que mes principaux alliés, à la veille de l'assaut le plus décisif de tous ceux auxquels j'ai pu participer en Terre Sainte, auraient été sultans, émirs, cadis, en lieu et place des comtes, ducs et rois d'Occident, j'aurais crié à la folie et sévèrement châtié la diffamation. Pourtant, à l'exception d'un comte béarnais que je n'ai pas encore eu l'heure de rencontrer, il semble bien qu'il me faille accepter cette réalité. Aux yeux de ceux qui se reconnaissent comme les chevaliers du Christ, je suis un traître. Reste à savoir quel regard, au lendemain de la bataille de Jérusalem, Dieu posera sur moi. Pour l'heure, mes nouveaux alliés m'ont laissé un privilège qui compense largement toutes les avanies et tous les sacrifices consécutifs à ma dissidence. Quoi qu'à dire vrai, c'est une faveur que personne n'aurait pu me refuser. Et s'il l'avait fallu, je l'aurais non seulement revendiqué, mais arraché de haute lutte, envers et contre tous, sans prudence. En ce dernier jour de paix, alors que la ville que les chrétiens nomment Jérusalem et les infidèles Al-Quds se préparent à l'assaut de quelques 50 000 croisés, je fais l'ascension du mont des Oliviers. D'un pas alerte, seul et sans armes, vêtu d'une simple tunique claire de pèlerin. Je marche dans les pas de Jésus, là où, ayant ressenti la fin et le commencement de toutes choses, il a accepté de se conformer à la volonté de son Père et de souffrir le martyre pour racheter les péchés des hommes. C'est le moment le plus important de toute ma vie. Alors, ce qui m'intéressait de voir dans ce moment de basculement de Tancrède, c'est qu'il est paradoxal, et que Tancrède reste un personnage paradoxal pour moi pendant tout le roman, et très largement un personnage qui échoue. Paradoxal parce que s'il va devenir un apostat, c'est-à-dire s'il va renoncer à la religion chrétienne, il ne le fait pas par admiration d'un point de départ de la religion musulmane, il le fait par déception. Il le fait parce qu'il a compris que le fondement de la croisade est un fondement matériel et non spirituel. Et à cet instant précis, à la veille de la bataille de Jérusalem, alors que beaucoup de choses vont encore changer, il est dans un cheminement de sa conscience qui est à la fois une dénonciation du réel et une exaltation de la foi. Et quelque part, il prend un étrange chemin pour un chevalier. Il s'éloigne de la réalité et des contraintes de la réalité. Alors que pour un chrétien qui l'est, au contraire, affronter la réalité, les difficultés de la réalité, telles qu'étaient l'éthique de l'époque chrétienne, devrait être au contraire un élément positif. Alors ce Tancrède, à ce moment-là, va se retrouver sans apatride, en quelque sorte, et sans spiritualité. Apatride, apostat, on pourrait même dire aphasie, puisqu'à un moment donné, il ne trouve plus les mots pour s'exprimer, et lui-même va se carnet, son compagnon Diogène, qui l'a perdu, lui-même va reprendre son carnet à la suite. Il ne peut plus s'exprimer, il ne trouve pas les mots pour exprimer son trouble. Ce qui m'a intéressé au niveau de l'aspect science-fictif de ce passage-là, c'est qu'est-ce qu'une uchronie en fait ? Et c'est ça qui m'intéresse le plus derrière l'histoire. J'essaye de vous montrer que lorsqu'on postule une possibilité d'une histoire divergente, il ne faut pas se contenter de le faire intellectuellement. Il faut le faire aussi presque charnellement, physiquement. Lorsqu'on crée un personnage, si ce personnage est une simple idée sur le papier, il ne vous fera pas vibrer. Vous ne le sentirez pas. Ce sera une abstraction. Alors si je fais une uchronie simplement me basant sur l'idée en disant « Tiens, ce serait intéressant que la première croisade ait une suite différente », je fais que la moitié de mon travail, c'est-à-dire je fais un travail d'hypothèse, de théorie. Mais si j'arrive à vous faire sentir que des personnages vivants, ayant une autonomie, ayant un libre arbitre en quelque sorte, ont en eux-mêmes la possibilité d'une divergence uchronique, c'est-à-dire de changer leur position par rapport à un groupe culturel ou cultuel, par rapport à un groupe religieux, à ce moment-là, je fais rentrer l'uchronie dans un procédé narratif charnel. Mon personnage est une uchronie en tant que personnage. C'est-à-dire qu'en tant que personnage, comme vous dans votre vie, à bien des moments, j'imagine, vous êtes retrouvé à la croisée des chemins, et vous avez dû, pas simplement intellectuellement, mais physiquement, émotionnellement, prendre une décision qui orientait votre vie dans un sens. Ce que j'essaie de faire avec Tancrède, c'est montrer que l'uchronie, avant d'être exprimée par des actes extérieurs et qui ont une conséquence sur l'histoire, elle est exprimée par, dans le fort intérieur du personnage, par sa conscience. Et l'expression est panodine, le fort intérieur, le fort interne, au Moyen-Âge, c'est le tribunal ecclésiastique. Dans le tribunal de l'Église, dans la justice ecclésiastique, qui était la justice la plus protectrice au Moyen-Âge, à part le paradoxe flagrant et que tout le monde utilise en général, qui est un contre-exemple maladroit de l'Inquisition, il faut rappeler que les tribunaux de l'Église au Moyen-Âge étaient essentiellement correctionnels. Ecclesia, aboret, sanguiné. L'Église a horreur du sang. L'Inquisition, oui, massacrait et brûlait vif. Mais les tribunaux de l'Église, les tribunaux normaux, ne prononçaient jamais la peine de mort ou de mutilation. Contrairement aux justices laïques. Car les tribunaux de l'Église étaient faits pour racheter les péchés. Et l'idée de rédemption ou de pénitence était une idée purement ecclésiastique, purement chrétienne. Et donc l'Église recherchait quoi dans la justice ecclésiastique? On recherchait non pas le fort externe, non pas la manifestation extérieure d'un péché, on recherchait d'abord le fort interne, c'est-à-dire en quoi la conscience du chrétien allait vivre. Ce que j'essaie de montrer là, à partir de mon expérience d'enseignement, c'est comment une uchronie existe d'abord, lorsqu'on parle d'un texte, dans le fort interne du personnage, dans sa conscience. On pourrait prendre des tas d'exemples d'uchronies très célèbres, où on se rend compte que nos personnages qui interviennent, les acteurs historiques, ont en eux-mêmes déjà une divergence avant même de la symboliser par un acte de rébellion ou un acte révolutionnaire. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Alors, je vais vous faire un autre extrait. Si je vous ennuie, vous me dites qu'on arrête. On arrête tout de suite. Puisque je parle de personnages vivants, il faut aussi, évidemment, à un moment donné, je vais parler d'émotion, il ne s'agit pas simplement de spiritualité, il faut aussi, à un moment donné, une relation amoureuse, une histoire d'amour, bien évidemment. Or, l'opéra de Tancrède, l'opéra de Comprat, pardon, c'est une histoire d'amour tragique, de façon très classique. Quelle est cette histoire d'amour tragique? Dans l'opéra de Comprat, je vais vous faire un extrait. Tancrède est amoureux d'une princesse musulmane qui s'appelle Chlorinde. Et Argan, un troisième personnage, qui joue un peu le rôle de troisième personnage jaloux, en quelque sorte, va manipuler les événements pour faire en sorte que Tancrède, de sa propre main, tue Chlorinde. Comment ça se passe dans l'opéra? Chlorinde est amenée, pour des raisons que je vous laisse découvrir si vous écoutez l'opéra, à revêtir les habits militaires, et c'est le modèle de la femme qui devient combattant et qu'on retrouve dans toute la période féodale, dans toute la période médiévale. Vous savez, Georges Duby, hein, la femme de chevalier le prêtre, on s'amuse à jouer avec ces trois figures. Et en devenant une femme combattante, une femme homme en quelque sorte, eh bien, elle se retrouve confrontée à Tancrède, qui la prenant pour Ardan, la tue. Et c'est Ardan lui-même, son rival, qui le lui apprend dans le passage que je vais vous faire écouter maintenant. Essayez d'écouter les paroles si vous arrivez à les comprendre. C'est Tancrède qui parle, hein, qui chante. Alors en fait, dans l'extrait de l'opéra, alors je ne sais pas si vous avez réussi à comprendre un peu les paroles, c'est pas évident avec la sono, il faut l'écouter tranquille. Ardan vient voir Tancrède et lui dit « Dans la nuit, Clorinde a pris mes armes. » Clorinde a pris mes armes. Il lui dit « Et ta main criminelle ?» Et l'autre dit « Juste au ciel. » Et il lui dit « Et ta main criminelle l'a tué. » C'est-à-dire c'est toi qui as tué Clorinde en pensant que c'était moi. Tancrède pensait avoir tué Ardan. Alors, pour le roman, et sans trop vous en dévoiler, il fallait que je tourne autour de ça. Et je ne voulais pas, évidemment, vous resservir l'histoire tragique de l'amant qui tue son amant sans s'en rendre compte. Alors, j'ai contourné ça en utilisant un élément venant de la culture musulmane. Et l'élément qui était le plus romanesque, le plus fascinant, évidemment, c'était les assassins. La secte des assassins, qui représente un islam chiite, ismaélien, dans toutes les branches de l'islam, c'est laisser la différence, enfin, la grande séparation entre le sunnisme et le chiisme. Et dans le chiisme, il y a beaucoup de variantes aussi. Et cette secte des assassins a joué un grand rôle au Proche-Orient et au Moyen-Orient, hein, juste en Perse. La forteresse d'Alamout étant sur les bords de la mer Caspienne, on en a encore des traces, on en a encore des vestiges. Avec ce fameux vieux sur la montagne, dont on ne sait pas exactement qui il était, qui était le maître des assassins. Moi, en fait, par une pirouette, j'en fais un personnage historique très connu, je ne vous dis pas qui. À vous de le découvrir. Et Clorinde, eh bien, est une princesse abbasside. Le califat abbasside était le califat de Bagdad. Et c'est une princesse abbasside chiite qui a rejoint l'ordre des assassins pour des raisons d'idéalisme. Et c'est cette princesse abbasside chiite qui va rencontrer Tancrède, qui va le sauver de la folie et qui va faire de lui un assassin. Elle le forme, elle fait de lui un assassin dans l'opéra, c'est lui qui devient l'assassin en la tuant. Là, c'est elle qui fait de lui un assassin. C'est elle qui est son initiatrice, sa formatrice, qui non seulement achève son basculement vers l'islam, vers le credo musulman et le credo chiite en l'occurrence, et l'ismaélien, Mais c'est elle qui fait de lui un assassin qui va avoir un rôle politique de premier plan. Et dans le roman, ça n'est pas lui qui la tue. Il croit la tuer, mais ça n'est pas lui qui la tue. Et évidemment, la pirouette, je vous la laisse. Je peux répondre tout à l'heure à vos questions si vous voulez, mais en tout cas, je ne peux pas trop vous en dire. Alors, pour le dernier extrait que je vais vous lire, eh bien, ce qu'on a vu avec au début de la croisade, un extrait du basculement, je vais vous lire un extrait qui vous montre Tancrède assassin. Tancrède, ayant accompli son uchronie intérieure et étant en train d'accomplir son uchronie sur le réel, c'est-à-dire lorsqu'il devient un assassin au service de l'islam chiite et qu'il va changer l'histoire des croisades. Je suis en position, immobile, invisible. Ils m'ont laissé l'entière liberté de l'exécution. Nul ne m'accompagne, pas même celle qui m'a initié et dont je connais à présent le moindre des soupirs. Ma dague est prête, elle n'est pas empoisonnée. Je devrais donc frapper au cœur et tuer du premier coup. Ils ne l'ont pas dit, mais je sais que si j'échoue, les assassins me tueront. À moins que les soldats d'Al-Afdal ne le fassent avant. L'unique différence sera la torture, sans doute. Mais je ne dois pas y penser pour l'instant. J'ai pris une décision qui, sans doute, a surpris mes frères assassins. Agir en plein jour et tuer deux fois. Pour cela, il a fallu attendre longtemps le moment adéquat. Je suis en position depuis près d'une journée. Je suis le silence incarné, inerte et froid comme la pierre du désert. Et pourtant, je frapperai plus vite que le serpent. Et quitte à le faire sous le soleil, autant que ce soit au su et à la vue du plus grand nombre. Voilà pourquoi j'ai choisi la mosquée Al-Azhar à l'heure de la prière vespérale. Mes ablutions sont faites, je suis pur. Je suis sûr que mon audace trouble les Nizarites. Les Nizarites, ce sont les assassins. Lorsqu'elle l'a appris, Clorinde a refusé de me revoir. Quant à Ibn Sina, dont la présence toujours fuyante donne l'illusion d'une présence angélique, penchée sur mon dos, prête à sacrifier ou à sanctifier, il ne fait aucun commentaire, aucun sourire n'a fait mouvoir son visage indéchiffrable. Le soleil descend lentement, mes muscles se sont minéralisés, le noir dont je suis vêtu est devenu pareil au gris de la pierre d'enceinte. Les croyants qui me frôlent ne savent pas que le regard d'un assassin glisse sur eux. Même l'enfant qui a marqué de son bâton le rythme de ses pas sur le mur n'a pu faire la différence. La mosquée est pleine à craquer, la chaleur doit être insupportable pour qui n'a pas suffisamment de foi pour se détacher des contingences. Il y a des pleurs, mais aussi des rires. L'hystérie guette, si proche de la ferveur. Jamais je ne me suis senti si proche et si loin de chez moi. Ici s'exprime, dans le cœur du peuple, une foi rayonnante, comme celle qui jadis me magnifiait le monde. Je me sens conforté dans l'acte que je m'apprête à commettre, tant il m'est insupportable qu'une telle force soit détournée par des êtres vils au service de leur seule gloire terrestre. Je suis prêt, je ne suis plus que le geste que je m'apprête à décrire. Enfin, alors que le soleil tombe à l'ouest, ils sortent. Comme je l'ai prévu, ils sont côte à côte, confiants, forts, en paix avec leur conscience. Il y a là, à mes yeux, comme un syncrétisme idéal à les cueillir ainsi, à cet instant, après la prière, qui vient de purifier leurs âmes. Comme une charité, troisième fondement de la foi chrétienne à laquelle j'ai tourné le dos, mais dont il m'aurait été impossible de me dépouiller complètement. Ils approchent. Leur souffle calme m'est à présent perceptible. Je n'ouvre pas les yeux, c'est trop tôt. C'est surtout inutile. Je peux sentir leur cœur aussi nettement que si j'auscultais le mien. Étonnamment, cela n'affecte pas ma résolution, mais la renforce. Je vais si bien frapper qu'ils ne se verront pas partir. Ils arrivent à ma hauteur, et comme si une partie de leur esprit avait déjà compris, leur corps s'immobilise, en attente. J'agis. Mes yeux s'ouvrent, ma jambe droite, qui n'est pas ankylosée malgré près de 30 heures d'attente, se place en avant. Mon cou s'incline comme pour un dernier salut d'homme à homme, et je frappe, deux fois, au cœur. Le vizir d'abord, le général ensuite. Le premier n'a pas scié, n'a même pas levé les yeux vers moi. Le second, en revanche, a esquissé un geste, comme s'il avait cru pouvoir un instant échapper à ma morsure. Mais ce mouvement de l'épaule droite, il ne l'a pas achevé. Il l'a stoppé de lui-même avant même que ma lame ne pénètre dans son ventricule gauche. Il sait, il veut mourir en soldat. Je ne l'admire pas, mais le respecte.
Le général Yves Ticard m'offre son regard et je lui donne le mien en retour. Et je jure devant le Très-Haut qu'il me reconnaît. Les deux corps glissent au sol, le vizir à ma gauche, le général à ma droite. Leurs âmes sont déjà en route. Et c'est à elles que j'adresse les trois mots que j'avais promis de prononcer. Pour Allah le miséricordieux. Si la stratégie des assassins est efficace, la reconquête de la Syrie sur les Turcs seldjoukides, au détriment des croisés, vient de commencer. Et au lieu de coûter des milliers d'âmes, le sang versé n'excède pas 10 litres. Ce qui m'a intéressé aussi dans cet extrait, que j'aime bien dans le roman, c'est de vous montrer que les assassins ne frappent pas les croisés, ils frappent les musulmans. Et ce que veulent les assassins, ce n'est pas lutter contre les croisés. C'est d'abord dominer un islam autour d'une nouvelle unité de la foi, et c'est ce que va chercher à faire Tancred, devenu assassin, et ensuite se débarrasser des croisés. Aussi improbable que cela puisse vous paraître au premier regard, en réalité, les croisés, au XIe siècle, en Proche-Orient, étaient considérés comme une quantité négligeable de chaos et de désordre par rapport aux dissensions internes de l'islam à cette époque. Vous aviez des tensions extrêmement fortes, et c'est dans les recherches que j'ai pu faire, ça s'est vérifié, entre les Turcs seldjoukides, qui avaient écrasé les armées impériales à Manzikert, en Turquie, en Anatolie, et l'islam chiite, qui depuis les deux califats abbassides et les fatimides du Caire, les abbassides de Bagdad, cherchaient à reconquérir l'Anatolie et la Syrie sur les Turcs. Il y a là une confrontation à la fois entre ethnies, arabes et turcs, entre branches de l'islam, chiites et sunnites, et seulement après, contre les croisés. Les croisés sont arrivés dans un monde à la géométrie si complexe qu'en réalité, ils ne sont venus que rajouter du chaos par rapport au chaos qui existait déjà. Et c'est pour ça que mon personnage de Tancred, dans la partie chronique du roman, rêve d'un islam unifié, pas tellement pour lutter contre les croisés, mais pour faire une unité spirituelle d'un monde qu'il juge plus chatoyant, plus intéressant et plus magique que celui d'où il vient. Je vous fais écouter un dernier extrait et on s'arrêtera là. Voilà, et en fait, pour dire un dernier mot sur le roman, Tancred échoue. Je ne dis pas comment, évidemment, mais Tancred échoue. Non pas que son uchronie et son monde uchronique proviennent l'un vers l'autre, ce n'est pas une histoire d'uchronie convergente comme les affectionne dans Jacques Lémier. Il dit toujours que l'uchronie revient toujours, que l'histoire reconverge toujours. Non, c'est simplement qu'il échoue parce qu'on échoue toujours. Je ne pense pas que. Pour placer sur nos idéaux, on puisse les voir réaliser. Parce que réaliser nos idéaux, c'est l'utopie, et l'utopie par définition, elle n'est pas, voilà, comme je les enseigne aussi en histoire des idées. On voit que toutes les utopies ont toujours échoué. Toutes les tentatives de réalisation de l'utopie ont toujours échoué. Et en réalité, même Charles Renouvier, qui écrivait l'uchronie, l'utopie dans l'histoire, savait très bien que son uchronie n'était pas réalisable, même en considérant la cohérence interne de l'histoire. Elle ne pouvait pas être, c'est ce que je dis dans ma postface, elle ne peut pas être une histoire réelle. Elle est nécessairement une histoire fictive. Par contre, il l'a instrumentalisée pour faire prévaloir son idéal républicain qui, à cette époque,
au début de la Troisième République était essentiel et devait être encore consolidé. Voilà, donc si vous avez des questions, sinon je vous remercie.